Je m'entretiens maintenant avec Claude Dussault, qui est le protecteur du citoyen par intérim, vice-protecteur, qui aussi est chargé des enquêtes. Alors, on va vraiment parler à la bonne personne. Monsieur Dussault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Larry.
Alors, aujourd'hui, vous avez remis votre rapport d'enquête, évidemment, sur ces 10 établissements qu'on a visités en Gaspésie. Ça fait suite à une plainte ou plusieurs plaintes?
Écoutez, essentiellement, les gens peuvent se plaindre quand les services les concernent directement ou ils peuvent nous faire un signalement directement à nous, au protecteur citoyen, quand ça concerne d'autres personnes. Dans le cas présent, on a eu plusieurs signalements concernant différentes installations dans la région de la Gaspésie. Et on a décidé donc de tout regrouper, ces signalements-là, dans le cadre d'une seule enquête.
Est-ce que c'est une première pour vous de faire ce type d'enquête-là en santé?
Bien, écoutez, il peut arriver assez fréquemment que si on a quelques signalements dans une région ou une sous-région, qu'on visite 2, 3, parfois 4 installations là, dans un même territoire, de visiter 10 installations, là, 5 de longue durée, 5 de soins de courte durée, c'est une première.
Bon, vous avez dénoté des lacunes, vous avez fait 19 recommandations. Comment s'est effectuée cette enquête? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous arrivez comme ça, là, impromptu, et vous faites l'enquête?
Oui, effectivement. Écoutez, c'est un des principes d'enquête qu'on fait ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, des visites non annoncées. Évidemment, si on annonce notre visite, les gens peuvent se préparer et ça va contaminer la preuve là, dans le jargon des enquêtes. Donc, on fait des visites non annoncées. C'est assez particulier quand on visite plusieurs installations dans une même région parce que là, les gens peuvent se passer le mot. Là, donc, il faut faire ça très rapidement, passer d'une installation à l'autre, puis après ça, prendre une pause et y aller un peu plus tard.
Donc, oui, ben, ça a dû prendre pas mal d'équipes parce que là, le territoire est vaste. Donc, il faut arriver aux installations à peu près au même moment?
Ben, c'est ça. Ben, écoutez, on a fait ça dans quelques jours collés là, en septembre d'un premier temps. Puis après ça, on a pris une pause et on est retourné en novembre.
Quelles sont les constatations que vous avez faites sur place, des grandes lignes?
Ben, écoutez, je pense que la première chose que les enquêteurs ont signalé à leur retour, là, c'était le dévouement du personnel. Et ça se traduisait, là, c'est pas juste, on fait beaucoup d'enquêtes aux protecteurs citoyens. En général, les gens font bien leur travail dans le réseau de la santé, mais là, on sentait un dévouement assez clair des employés par plein de petits signes, féliciter une personne lorsque se rempart elle-même à la salle à dîner, repasser une personne sur une chaise, plein d'éléments qui démontraient là, le dévouement du personnel, c'était un des constats. On a vu, je tiens à spécifier, on n'a pas vu d'éléments qui fait mettre en danger finalement la sécurité ou la santé des personnes. Cependant, on a vu plusieurs éléments. Là, c'est pour ça qu'il y a 19 recommandations. Il faut se rappeler qu'on a visité 10 installations. Donc, en moyenne, il y a des recommandations qui touchent l'ensemble des installations, mais il y en a qui sont spécifiques à certaines installations. Je vous dirais, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments, si on commence par les établissements de longue durée, il y avait des éléments reliés au délai de réponse et les cloches d'appel. En général, sont plutôt bons. Cependant, dans environ 5 % des cas, les délais sont trop longs. Et ça peut faire en sorte que des gens, entre autres, qui désiraient aller aux toilettes, ont dû uriner dans leur couche d'incontinence plutôt que de se rendre aux toilettes. Donc, on a demandé là, qu'il y ait une amélioration là-dessus. Des problèmes aussi au niveau des mesures de contention pour les gens qui ont des problèmes de démence ou de comportement agressif. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait ces personnes-là avec une demi-porte là, en plexiglas. Donc, en quelque sorte, on limitait la personne à sa chambre. Bon, c'est correct de faire des mesures de contention quand une personne est en crise ou a un comportement déplacé, mais à un moment donné, il faut avoir des interventions plus poussées pour amener la personne à changer son comportement. Donc, on a fait des recommandations au niveau justement de la formation des employés en cette matière. Il y a aussi une problématique particulière dans l'installation de Mgr Ross, où on a constaté, pour décrire ça rapidement, il y avait pendant plusieurs années, il n'y avait pas de toilette avec un bain avec immersion complète. Là, c'était des toilettes qui étaient faites à la débarbouillette, si vous me permettez l'expression. Il y avait eu des plaintes des gens en juin 2016 à la haute direction au mécanisme des plaintes du centre du CI3S de la Gaspésie. Et bon, à ce moment-là, il y a un équipement qui a été installé, sauf qu'il y a eu des problèmes, il y a eu un incident avec l'utilisation de l'équipement, donc il y avait été à nouveau, il y avait des gens qui avaient, au moment que nous, on a fait notre enquête, il y avait un équipement, l'équipement n'était pas adapté, ce qui faisait que les gens n'avaient toujours pas, une vingtaine de résidents n'avaient toujours pas accès à un bain immersion. Évidemment, on a recommandé que cette situation soit corrigée très rapidement. Vous avouerez, sur ce volet-là, on était un peu surpris au protecteur citoyen parce que on avait constaté cette situation-là dans les années 2014-2015 et on avait fait une recommandation, d'ailleurs, dans notre rapport annuel 2014-2015, demandant au ministère de la Santé de faire l'inventaire de tous les CHSLD pour s'assurer qu'ils aient tous, tous les CHSLD au Québec aient tous l'équipement pour donner des bains nécessaires. Et on n'avait pas eu de plainte, entre autres, dans le dernier an, en 2016, là, concernant l'absence de bains d'immersion. Mais quand on a fait notre enquête, justement, là, dans une des 5 installations qu'on a visitées, le Monseigneur Ross, là, on a constaté là, qu'il y avait encore des personnes qui n'avaient pas de bain complet avec immersion. Bon, je tiens à signaler, évidemment, les gens avaient quand même les soins d'hygiène requis, là, sauf qu'on comprendra là, que c'est pas une situation acceptable que les gens n'aient jamais accès à un bain complet. Bon, en Murdochville et en Skyrand Valley, là, on parle de 2 CLSC avec 2 civières. Il y avait plusieurs éléments. Le principal problème, je vous dirais, était le fait, là, au niveau de la réévaluation des personnes. Il y a une grille de triage qu'on appelle au début là, une échelle là, qui était développée où on donne une priorité à une personne de 1 à 5, 1 étant requiert des soins immédiats et 5 étant un degré non urgent. Et selon votre degré de priorisation lors du triage initial, vous devez être réévalué à des périodes fixes dans le temps et ce n'était pas toujours respecté. Et dans certains cas, le personnel infirmier était trop occupé ou n'avait pas une bonne vue sur la salle d'urgence, si bien que s'il y avait une petite, la santé d'une personne se détériorait. Il n'était pas en mesure d'intervenir rapidement. Donc, évidemment, on a formulé des recommandations là-dessus aussi.
Bon, il y avait la question aussi d'être vu rapidement. Je pense à Murdochville, les délais là, qui dépassaient 15 minutes et même qui pouvaient aller entre 35 et 100 minutes.
Oui, c'est ça. Ben, effectivement, c'est trop long. Je parlais tantôt des délais de réévaluation, mais évidemment, il y avait aussi des problèmes, effectivement, comme vous l'avez mentionné, pour la première évaluation. C'est important d'ajouter, surtout dans les soins de courte durée, c'est difficile de prévoir exactement quelle sera la demande ou l'affluence à l'urgence, mais c'est important normalement, les périodes de pointe historiques sont assez connues, puis c'est important de prévoir et de réagir rapidement si on a une affluence plus élevée que prévue.
Bon, je vois dans votre rapport, vous dites, l'enquête n'a pas révélé de lacune majeure qui justifiant que le protecteur du citoyen, là, dans le fond, on craint pour la santé et la sécurité des usagers. On comprend bien ça. Mais lorsqu'on amène des exemples dans le cas de ces bains ou de gens qui vont uriner dans leurs vêtements, il y a quasiment tout cet aspect de dignité de la personne là qui, je ne sais pas, mais est-ce que à quelque part, oui, c'est peut-être pas majeur pour les risques pour la santé, mais pour la personne et l'individu, c'est pas quelque chose qui peut être majeur à la rigueur?
Absolument. Écoutez, vous avez entièrement raison. C'est pas banal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait des recommandations. On tenait à mettre les choses en perspective, là, parce qu'évidemment, on a fait beaucoup d'enquêtes. Puis on a vu des cas absolument affreux où il y avait de la violence physique. Là. Donc, on tenait à de mettre les choses en perspective. Mais effectivement, vous avez entièrement raison. Écoutez, c'est pas banal. Une personne, au niveau de sa dignité, là, préfère aller aux toilettes que d'être obligée d'uriner dans sa culotte d'incontinence, pardon. Toujours dans un autre endroit, on voyait qu'on réveillait les gens à 5h30 le matin pour les faire déjeuner, mais les gens ils disaient écoutez, j'ai froid, je suis pas prête, laissez-moi dormir. Donc les soins étaient donnés dans certains cas plus en fonction des contraintes de disponibilité du personnel que de la qualité de vie des gens. Là. C'est important de le rappeler, là, dans les soins de longue durée, un CHSLD, là, c'est un milieu de vie. Donc tout l'aspect qualitatif est très important. Et ils ont entièrement raison de le soulever. Encore une fois, tout en mettant les choses en perspective, notamment, je mentionnais tantôt, le fait que les gens n'avaient pas accès à un bain complet, là, c'est inacceptable. Il fallait que ça soit corrigé. Ça n'aurait pas dû être toléré aussi longtemps.
Bon, le problème, c'est qu'il manque de personnel?
Ça, là-dessus, écoutez, on a fait des vérifications. On a vérifié, là, les ratios comme tel de personnel sont respectés. Là, je vous dirais, comme un peu partout dans le réseau de la santé, on est toujours un peu limite au niveau de l'effectif. Je vous dirais, le principal problème qu'on a constaté, c'est que, bon, c'est une chose qu'on va planifier. Surtout, évidemment, il y a une différence entre les soins de longue durée et les soins de courte durée. Là. Dans les soins de courte durée, la demande peut varier parce qu'on peut moins prévoir là, quelle sera l'affluence. Dans les soins de longue durée, ben, c'est des gens en CHSLD. Donc, là, à ce moment-là, les besoins sont plus facilement prévisibles. Mais même dans les situations de soins de longue durée où on sait, en gros, la clientèle avec laquelle on doit travailler, il peut y avoir des périodes de pointe comme telles, parce qu'il y a des incidents qui peuvent se produire, etc. Donc, c'est bien beau de prévoir des ratios et de les respecter en termes d'effectifs de personnel, mais il faut avoir une capacité d'adaptation lorsqu'il y a des surcharges, notamment ponctuelles. Et ça, là-dessus, il y avait des possibilités de faire appel à du personnel lorsqu'il y a des périodes de pointe, sauf que le mécanisme n'est pas très clair. Donc, on a effectivement fait une recommandation au CI3S de la Gaspésie de formaliser leur mécanisme pour lequel les gens, le personnel infirmier notamment, puissent faire appel à des ressources additionnelles lorsqu'il y a des périodes de pointe. Parce qu'il y avait comme un flottement là-dessus par rapport à, écoutez, on a une période de pointe, on est débordé en ce moment parce que c'est produit tel et tel événement en cascade. Et là, ben, les ressources qui en temps normal suffisent dans le CHSLD ne suffisaient plus parce qu'il y avait tel événement qui s'était passé. Il faut avoir, dans le réseau de la santé, il faut toujours avoir une certaine capacité d'adaptation, y compris dans un CHSLD.
Parce que du côté du syndicat, on dit que les cas en CHSLD sont de plus en plus lourds, donc souvent, le personnel doit se prendre à deux pour aider ou travailler avec une personne aînée. Donc, pendant ce temps-là, on ne peut pas répondre nécessairement aux autres patients. Là. C'est peut-être un élément aussi...
Écoutez, ils ont raison, c'est un constat. Là, avec au fil des années, là, la clientèle dans les centres d'hébergement de longue durée là, s'est alourdie. Là, effectivement, les cas sont de plus en plus lourds à... Ils sont télétraités et fréquemment, parce que j'en ai parlé de tonus musculaire ou autre, deux intervenants sont requis pour les agents. Les ratios d'effectifs qui sont prévus doivent normalement tenir compte de cette situation-là. Encore une fois, tout en reconnaissant qu'on est vraiment limite en termes de capacité de ressources. Mais le problème principal qu'on a vu, c'est pas tellement dans les ressources à la base, c'est de l'absence. C'est-à-dire qu'on a vu que l'offre de services était suffisante, mais était fragile. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre débordement là, qui est hors norme, à ce moment-là, là, on était plus capable de faire face à la demande.
Bon, vous avez émis 19 recommandations. Il y en a plusieurs qui devaient être remplies, si on veut, au 31 janvier. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a répondu à vos attentes, là?
Oui. Bien, écoutez, pour vous décrire ça succinctement, là, en deux temps, quand on fait un rapport, on le transmet à l'établissement, et l'établissement a 30 jours pour le CI3S de la Gaspésie, ici, en l'espèce, là, a 30 jours pour nous répondre, pour nous indiquer s'il accepte ou pas nos recommandations. Alors, il y avait jusqu'au 31 janvier pour le faire. Ils ont accepté l'ensemble de nos recommandations. Évidemment, on ne se contente pas du fait de savoir s'ils acceptent ou pas nos recommandations. On demande un plan d'action et on demande à quel moment ça va être implanté. Pour l'ensemble des recommandations, il y en a qui vont être implantées, qui sont déjà en cours d'implantation, là, mais toutes les recommandations qu'on a faites doivent être complétées pour le 30 juin 2017. Et évidemment, on va faire un suivi, nous, pour s'assurer de l'implantation de chacune des recommandations.
OK, parce que je voyais 31 janvier...
Certains cas, ça peut être le 31 janvier. Dans d'autres cas, ça peut aller jusqu'au, selon les recommandations, là, certaines vont jusqu'au 30 juin 2017, mais il n'y a rien qui dépasse le 30 juin 2017.
Mais dans le cas du 31 janvier, on comprend que vous ne les avez pas reçus, donc...
Oui, on a reçu.
Ah, mais est-ce que là-dedans, ça vous satisfait, ce que vous avez reçu?
Oui, la réponse, écoutez, la collaboration, on le souligne dans le rapport, là, durant toute la durée de l'enquête, autant le personnel soignant que les gestionnaires, la collaboration a été excellente. On a senti une volonté à la fois autant du personnel de bien traiter les usagers du réseau et une volonté aussi de la haute direction là, de corriger les situations qui peuvent être problématiques.
Bon, est-ce que le protecteur de citoyens peut faire aussi des liens par rapport aux compressions qu'on a vues dans les dernières années, particulièrement l'année passée, on parle de 21 millions de compressions là, en Gaspésie. À quelque part, est-ce que vous êtes capable d'établir des liens, de voir qu'il y a des répercussions à cause de ça?
Bien, écoutez, effectivement, là, dans toute période de réorganisation, là, toute période de transition est toujours problématique et on a vu plusieurs endroits que quand on a fusionné les établissements, bien, l'offre de service qui était retenue, c'était toujours ce qu'on a appelé un nivellement par le bas. Donc, on s'est assuré un peu de donner le minimum partout. Donc, on est très limite. La situation qu'on décrit ensemble depuis quelques minutes là, pour la Gaspésie est une situation qu'on observe de façon générale au Québec où on est souvent très limite en termes de ressources. On est vraiment là, il n'y a pas beaucoup d'espace, de marge de manœuvre. Je dirais pas que les services sont insuffisants de façon générale, mais je dirais que la capacité d'adaptation dès qu'il y a des situations problématiques, là, elle n'est pas là.
Donc,
pas juste en Gaspésie. Là.
Donc, vous faites des liens donc avec ces compressions qu'on vit dans le système de santé depuis les dernières années?
Ben, écoutez, il y a l'impact comme tel d'une réorganisation se fait toujours sentir. La recherche d'efficience, on la partage, mais il y a eu des impacts, c'est sûr, à un moment donné, dans le cadre de la réorganisation. Encore une fois, je réitère, je ne crois pas que les ressources soient, de façon générale, insuffisantes, mais je pense que la capacité d'adapter, outre les ratés qu'il y a eu lors de la réorganisation, là, mais le réseau de la santé, je vais vous dire l'expression, est en train de retomber sur ses pattes, là, graduellement. Je vous dirais, la situation actuelle, la perception qu'on a au protecteur du citoyen, c'est que le réseau est vraiment à la limite de sa capacité. Et compte tenu qu'il est à la limite de sa capacité, il est plus difficilement, peu de capacité d'adaptation pour des situations problématiques.
Bon, bien, c'est très intéressant, M. Claude Dussault, donc protecteur du citoyen par intérim et chargé de ces enquêtes. Merci pour tous ces détails.
Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous.